Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chen Nibiru.
Halud Mouni.
Chen Nibiru. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes mercredi 1er avril 2015. Merci de nous recevoir chez vous. Le studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur la situation des mines antipersonnelles au Mali. Comme vous le savez, et certainement, la journée internationale des mines, c'est prévue pour le 4 avril prochain. Et nous, en lien donc avec cette date, nous allons donc réfléchir sur la situation des mines antipersonnelles et de leurs dégâts dans le monde. Nous sommes pour cela avec trois invités. Benoît Couturier, directeur programme Handicap International. Par téléphone, Sophie Petronin, responsable de l'association d'aide à Gao, et Koulibaly Fatoumata Diko, spécialiste handicap et réadaptation à la direction nationale donc du développement social. Je suis Famoussa Sidibé, nous vous direz est à la technique. Selon un rapport des Nations Unies, les engins explosifs improvisés tuent maintenant 10 fois plus que les mines en Afghanistan. Les mines terrestres ne sont pas les seuls dangers explosifs présentant une menace pour les civils vivant dans les zones de conflit ou d'après-conflit. Il y a également les armes de guerre, les munitions non explosées et engins explosifs improvisés qui tuent des travailleurs humanitaires, du maintien de la paix, des journalistes et beaucoup d'autres encore. Alors, nous allons donc faire le point donc de cette situation avec nos invités à 2 jours donc de la journée mondiale anti-mine. Que peut-on dire de l'actualité autour de ces engins explosifs, Benoît Couturier d'Handicap International?
Merci, bonjour. Comme vous l'avez dit, c'est une journée importante pour la lutte anti-mine dans le monde. Il faut savoir que des engagements et des traités internationaux ont été signés en fait par le passé, notamment je pense au traité d'Ottawa qui a été mis en vigueur en tout cas au 1er mars 1999 et qui permet d'interdire d'utiliser, de stocker, de produire et de transférer des mines antipersonnelles. Donc évidemment Handicap International avec d'autres ONG a énormément plaidoyé pour ce traité et pour la mise en place de ce traité. Il a été suivi aussi pour information par le traité d'Oslo qui a permis aussi de mettre un focus sur les BASM qui sont les bombes à sous-munitions et qui sont aussi très dangereuses pour notamment pour les civils. Et c'est vraiment le combat d'Handicap International pour justement prévenir et anticiper et du coup réduire les dégâts que causent ces engins mortels sur les personnes et les populations civiles.
D'accord. Alors, on va aller dans une zone où ces engins font beaucoup parler d'eux. À Gao, par exemple, dans le nord du Mali, retrouver Sophie Petronin, responsable de l'association d'aide à Gao. Alors, je vous propose de mettre les casques pour mieux entendre Sophie depuis Gao. Bonjour madame, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, bonjour, je suis là.
Alors, dites-nous, vous êtes au studio avec nous. Dites-nous, quelle est l'ampleur aujourd'hui des mines antipersonnelles à Gao?
L'ampleur, c'est difficile de la quantifier. Il y a des organismes qui sont là et qui seraient mieux appropriés que moi. Ce que moi, je peux dire, c'est qu'il reste, il y a malheureusement beaucoup de restes d'explosifs qui sont encore présents, qu'il y a régulièrement des mines qui sont posées sur les pistes principales, mais difficile de pouvoir les quantifier.
Merci beaucoup, madame. Vous restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous avons également madame Koulibaly Fatoumata Diko. Vous êtes spécialiste handicap et réadaptation à la direction nationale du développement social. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que ce phénomène touche beaucoup de civils au Mali?
Oui, ça touche beaucoup de civils. Les statistiques vont surtout à plus de 100 enfants, surtout dans les régions du nord et en commençant par Ségou. Donc, c'est très alarmant.
D'accord. Alors, avant d'en venir aux engins explosifs qui causent beaucoup de dégâts aux différentes missions qui se rendent dans le nord, notamment les contingents des Nations Unies, nous allons entrer en détail avec ces mines en tant que telles, c'est des engins qui sont interdits aujourd'hui de circulation. Pourquoi cela est toujours d'actualité, Benoît Couturier?
Alors, en fait, il faut aussi apporter la précision peut-être sur le vocabulaire qu'on utilise, parce que au Mali, en fait, on va pas parler de mines, on va parler plutôt de restes explosifs de guerre, puisqu'on a constaté en fait pas une très grande importance, en tout cas quantité de mines antipersonnelles, mais plutôt des restes explosifs de guerre et des IED, des engins explosifs non improvisés. Évidemment, ça a un impact fort, comme je le disais. On a parlé des victimes et on peut parler ici des enfants, notamment. Alors, l'action d'Handicap International au nord, puisqu'on intervient sur les régions de Tombouctou et de Gao dans ce domaine-là, notamment, permet aussi, alors, d'un côté, de faire de l'éducation au risque pour sensibiliser les populations et les enfants, les enseignants évidemment, sur ces dangers-là, mais aussi de prendre en charge des victimes de restes explosifs de guerre en lien avec les services techniques de l'État, notamment les CRAORF, les centres régionaux d'appareillage orthopédique et de réadaptation fonctionnelle au Mali, donc à Tombouctou et à Gao. Donc on essaye évidemment d'apporter un soutien aux familles aussi. Et c'est vraiment une lutte de tous les jours. Donc on est vraiment engagé là-dessus, puisque c'est évidemment une cause du handicap. Donc on est particulièrement concerné et on voit les dégâts que ça peut causer autour de nous.
Alors Sophie Petronin, vous êtes responsable de l'association d'aide à Gao. Aujourd'hui, on peut pas, parmi les problèmes que subissent les populations civiles de Gao, on peut pas occulter l'effet donc de ces mines et de ces engins, de ces restes d'engins de guerre aujourd'hui sur la population. Dites-nous aujourd'hui quelles sont vos actions en faveur donc des civils qui subissent des choses qui sont en lien aujourd'hui, des difficultés qui sont en lien aujourd'hui avec ces engins.
Bon, la difficulté, c'est d'aller vers les populations dans la brousse, parce qu'il faut utiliser des itinéraires qui sont, entre guillemets, la plupart du temps piégés, donc il faut avoir des stratégies différentes, traverser des pâturages, parce qu'on sait qu'au milieu des chèvres et des vaches et des moutons, eh bien, il y a beaucoup moins de risques. Les actions que nous avons menées, parce qu'on a pris en considération que ce conflit armé qui a déchiré le nord du pays et qui continue de le secouer, a vu des centaines de personnes abandonner leur zone, et en particulier des terres cultivables, donc réduisant à zéro leur activité économique. Ça a laissé le champ libre aux terroristes qui ont utilisé ces engins, les mines comme les IED, comme l'a souligné Handicap International, qui font un énorme travail et que j'ai pu constater même dans les années précédentes. Et ces engins sont une arme de guerre, mais qui continueront encore à faire la guerre après que la guerre soit terminée. Et nous, ce que nous avons essayé de réaliser pour stopper, mettre un frein, pour ne pas dire aller plus loin et permettre aux populations de mieux comprendre, parce que ce sont les enfants. Les enfants sont particulièrement touchés. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ces engins. Et dans leur innocence, lorsqu'ils les trouvent, ils les considèrent comme des jouets. Donc ce que nous avons fait, c'est un énorme travail qui a été fait pas seulement avec AAG, mais avec beaucoup d'autres partenaires soutenus par l'UNICEF. Pardon, je suis un petit peu malade avec une otite et puis une angine. Alors pardonnez-moi. Voilà, il y a un très gros travail qui a été fait sur 2013-2014 avec l'UNICEF et puis ses partenaires. Nous ne sommes pas les seuls, pour justement une meilleure connaissance sur les risques des mines et engins non explosés. On a mené des séances d'information, de sensibilisation pour prévenir les enfants contre les risques des engins non explosés. Des boîtes à images ont été utilisées. Cette prévention, elle s'est faite dans toutes les zones d'intervention des partenaires, en tout cas nous, dans toutes nos zones. On a utilisé ces moyens de communication, information, sensibilisation. Et ça a quand même permis aux populations, et particulièrement aux personnes déplacées qui étaient internes et qui étaient rentrées au bercail, si on peut dire, de connaître le danger de ces mines et de ces engins en question, les risques qui étaient liés à ces engins et la dangerosité sur les enfants, parce que un nombre, comme l'a dit justement madame tout à l'heure, un nombre d'enfants incalculable, on n'a même pas des chiffres, des statistiques sur lesquelles on pourrait vraiment s'appuyer, parce qu'il y en a beaucoup malheureusement qui passent à travers les mailles de la récolte, mais par exemple un enfant qui à Thessalite avait une chèvre qui avait grimpé sur une dune, et puis l'enfant est parti la récupérer parce que ça aurait pu se passer mal à la rentrée au campement. La chèvre a traversé, l'enfant a sauté sur la mine, et puis voilà, c'était l'année dernière. Donc on a fait ce gros travail, mais on n'est pas les seuls. Handicap international,
vous êtes beaucoup
d'autres structures ont essayé de faire ce travail en profondeur. Et puis, ce qui est très agréable, c'est de pouvoir travailler quand même avec les structures étatiques. Parce que ça, l'impact est beaucoup plus grand.
Merci beaucoup, Sophie Petronin. Je rappelle que vous êtes responsable de l'association d'aide à Gao. Alors, malgré le petit bobo, vous parvenez tout de même à nous donner une belle analyse de la situation. Merci beaucoup et restez avec nous. Alors, madame Koulibaly Fatoumata Diko, vous êtes spécialiste handicap et réadaptation à la Direction nationale du développement social. On a, parmi les statistiques fournies par les Nations Unies, il y a eu à peu près 138 victimes dû notamment à ces engins-là dans le monde. Aujourd'hui, au Mali, est-ce qu'il est possible d'aller vers ces populations victimes justement au nord du Mali?
Oui, il est possible dans la mesure où nous travaillons avec tous les acteurs, que ce soit communautaire, que ce soit les ONG. Nous travaillons avec tous ces partenaires sur le terrain. Donc nous pensons qu'on peut vraiment travailler au nord par rapport à l'aspect de prévention et même par rapport à la prise en charge de ces victimes.
Alors Sophie Petronin parlait tout à l'heure de beaucoup de sensibilisation. Quelles sont les mesures mises en œuvre par le gouvernement, les autorités, pour mieux sensibiliser la population par rapport à ces risques?
Bon, nos mesures se situent à différents niveaux. D'abord, par rapport à l'utilisation même de ces matériels, nous avons donné des informations en collaboration avec les leaders communautaires, les ONG, en particulier avec Handicap International, avec le Centre Père Bernard Vespiren et CICR. Nous intervenons pour donner des informations non seulement aux enfants, mais également aux parents, pour vraiment éviter de toucher à ces différents éléments-là, qui sont les objets qui peuvent être l'objet des victimes. Donc également, nous faisons des activités d'information et de sensibilisation pour qu'on puisse prendre les victimes de façon plus précoce. Parce que quand on prend rapidement les situations de handicap, on a toutes les chances de restaurer l'autonomie de la personne. Dans les cas contraires, ça peut vouer à des échecs. Donc par rapport à ça, lors de nos formations avec les différents acteurs, surtout avec la formation du handicap, nous donnons les mines souterraines par rapport aux causes du handicap et comment l'éviter, et également, si le cas arrive, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc voilà quelques informations également dans l'accueil et orientation, puisque notre mission, c'est la réduction vraiment des situations de détresse et l'amélioration des conditions de vie de toute la population. Donc notre première mission, c'est de soulager ces personnes qui sont victimes, les accueillir et également les orienter aux services compétents pour une prise en charge précoce. Voilà. Donc, en dehors de ça aussi, nous avons des formations au niveau des écoles. Moi, je donne des cours de handicap et de la RBC au niveau de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux. Donc, à ce niveau également, nous donnons des informations à ces futurs travailleurs sociaux pour que, une fois sur le terrain, qu'ils sachent vraiment donner les informations, étendre les informations à tous les niveaux.
D'accord. Nous allons observer une courte pause et nous reprendrons donc le cours de cette émission.
Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter et notre site web www.studiotamani.org sont à votre disposition pour toute éventuelle réaction par rapport à cette émission. Alors nous réfléchissons aujourd'hui sur la situation des mines, des engins explosifs dans le monde et comme vous le savez, le 4 avril est consacré donc à la lutte contre, à la journée mondiale de lutte contre les mines anti-personnel ou bien les mines tout court. Alors, nous allons voir avec vous, Benoît Couturier, qu'est-ce qui est prévu dans le cadre donc des activités du 4 avril au Mali?
Alors, en fait, il va y avoir plusieurs activités donc sur Tombouctou, sur Gao, sur Bamako. À Bamako, il y aura le vernissage d'une exposition photo sous la houlette de Une Masse, donc qui va avoir lieu à partir du 3 avril en fait et qui va durer jusqu'au 5 mai si ma mémoire est bonne. On aura aussi évidemment en région, donc comme je disais, des activités sur Tombouctou. On va avoir une pièce de théâtre que donc Handicap International, en tout cas les équipes d'Handicap International, va faire auprès justement des enfants, donc pour sensibiliser sur ces aspects là on va avoir évidemment des séances d'éducation au risque, donc ça c'est aussi d'autres partenaires. Alors Une Masse va le faire, mais il y a aussi MAG qui intervient dans ce domaine-là. Et aussi des photos qui seront exposées, me semble-t-il, donc sur Tombouctou, en partenariat donc avec tous ceux qui interviennent dans ce domaine. Donc voilà, ça va être assez riche, je pense.
Alors, est-ce qu'on peut voir avec vous, un bilan des victimes, que ce soit les personnes... c'est un phénomène qui est handicapant, qui est invalide. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir le nombre de personnes touchées par cette question au Mali?
Alors oui, on l'a un peu précisé tout à l'heure. On a parlé, alors vous avez parlé de 138 victimes dans le monde, donc je souhaite rectifier ces 138 victimes au Mali.
Au Mali.
Ouais, parce que dans le monde, c'est beaucoup plus important.
Autant pour moi.
et parmi ces 138 victimes au Mali, en fait, on a 70 enfants. Donc ça, c'est un recensement, et comme le disait Sophie, il y a forcément des données qui passent au travers du filet. C'est un recensement qui s'effectue grâce à une base de données, en tout cas, qui est centralisée au niveau d'Une Masse, et que les partenaires renseignent. Nous, à notre niveau, on a, à travers un projet qui est sur l'assistance aux victimes, on a pris en charge 42 enfants. Donc ce projet a débuté l'année dernière, donc c'était en octobre 2014. C'est dans ces 42 enfants, vous avez 23 enfants qui étaient victimes de restes explosifs de guerre et 19 enfants handicapés dans le besoin. Parce qu'il faut savoir que à travers ce projet, on veut pas être discriminant, on veut travailler aussi avec les enfants qui ont un handicap, qui n'est pas forcément dû à un reste explosif de guerre. Donc voilà, pour avoir aussi les deux approches. Et évidemment, on va aussi travailler avec les familles. Pour pouvoir identifier, en tout cas évaluer si elles ont des besoins en termes de santé, en termes de nourriture, d'accès à l'eau, leur habitat, les accès à la scolarité pour les enfants, donc les soutenir dans ce domaine-là. Pour vous donner quelques chiffres supplémentaires, sur le projet éducation au risque dont je vous ai parlé, donc on avait déjà une première phase en 2013-2014 en parallèle avec les actions de dépollution qu'effectuaient les équipes de démineurs d'Handicap International. On a repris les activités depuis septembre 2014 avec UNICEF. Et à ce jour, donc depuis septembre 2014, on a sensibilisé 98 738 personnes, pour être précis, dont 20 780 jeunes. Donc ce qui fait quand même un nombre assez important. Mais maintenant, quand on voit évidemment le contexte au Mali, l'évolution du contexte, on peut évidemment en conclure qu'il y a énormément de travail à faire et qu'on est vraiment, on doit s'appuyer sur les ONG locales, sur les enseignants, on en a parlé, sur les services techniques aussi, on en a parlé, c'est très important. sur la protection civile et travailler avec les collectivités territoriales. Ce savoir-faire n'est pas, j'ai envie de dire, exclusif aux ONG qui travaillent dans ce domaine-là. On doit le partager et après, le relais doit se faire sur le terrain. Je voulais juste aussi réagir sur ce que disait Sophie tout à l'heure sur l'accessibilité. C'est un vrai problème. On a un vrai problème sur l'accès sur le terrain. Nous, nos équipes travaillent d'arrache-pied, donc encore une fois sur ces deux régions que sont Tombouctou et Gao, avec des problèmes de sécurité, des axes qui sont piégés. On doit avoir des stratégies qui soient un peu élaborées justement pour aller dans les communes et dans les zones rurales pour atteindre les familles et les enfants notamment qui sont finalement qui n'ont pas les informations nécessaires pour savoir si un objet métallique qui va traîner, qu'est-ce que c'est, et surtout ne pas le toucher. Ça, c'est vraiment la première chose, ne pas toucher des objets métalliques qui sont non identifiés et qu'on ne connaît pas. Et c'est vrai qu'on s'appuie pour ça avec des systèmes de boîtes à images pour éduquer, mais aussi des affiches, des prospectus pour lancer un maximum de messages et pour que ça soit bien compris.
D'accord. Alors Sophie Petrona, nous avons vu un peu l'impact de cette situation sur l'homme. Aujourd'hui, vous évoluez dans une zone Gao, une zone de transhumance par excellence. Dites-nous quel est l'effet, quel est l'impact aujourd'hui de ce phénomène-là sur le bétail dans le Nord?
Je crois que il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ce que viennent de dire mes deux collègues de plateau avec lesquels je ne suis pas. C'est particulièrement bien défini. Je veux juste peut-être ajouter ou rebondir sur ce qu'a dit Benoît. Oui, les axes principaux sont piégés, ça c'est clair, mais on peut accéder aux zones très éloigné aux limites du grand désert. Il suffit simplement de connaître les itinéraires qu'on peut emprunter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au milieu des pâturages, etc., mais on y arrive très bien parce que c'est ce que j'utilise depuis de nombreuses, ce que j'ai utilisé et que j'utilise encore avec mes équipes depuis de nombreuses années parce qu'on a connu les ex-rébellions 2006, par exemple, de Bohanga, etc., mais on n'avait pas de mine. Aujourd'hui, on est confronté à une problématique qui est lourde à gérer. Mais si je peux leur être utile en quoi que ce soit pour accéder à des zones, puisque nous personnellement, j'ai toujours opéré dans les zones pastorales, au milieu des campements et petits villages. Je connais tous ces petits itinéraires, comme je l'ai dit, à travers les pâturages, ce qui facilite énormément et c'est ce qui peut-être nous a permis à nous d'échapper de temps en temps à des risques d'explosion sur la piste principale. Et on sait qu'aujourd'hui, toutes les pistes, et particulièrement les zones pastorales qui sont au nord et nord-est de Gao, sont à risque énorme.
Merci beaucoup Sophie Petrona, vous êtes responsable de l'association d'aide à Gao. Madame Koulibaly Fatoumata Diko, vous êtes spécialiste handicap et réadaptation à la Direction nationale du développement social. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les autorités font assez pour prévenir les populations?
Oui, je pense que nous faisons beaucoup pour prévenir ces problèmes, dans la mesure où nous travaillons en partenariat avec l'ensemble des acteurs, que ce soit CCR, que ce soit HI, que ce soit le centre Bernard Vespéren et les autorités au niveau local et le centre national d'appareillage orthopédique. Monsieur Benéa vous a parlé des CRAROF, c'est le centre décentralisé du CENAOM. Donc nous sommes tous impliqués dans les mêmes activités par rapport à la prévention et par rapport à la prise en charge.
Alors Benoît Couturier, vous êtes directeur de programme à Handicap International. Nous allons revenir encore une fois sur les moyens des autorités maliennes à faire face à ce problème. Excusez-moi. Est-ce que vous sentez qu'il y a une volonté politique derrière vos efforts?
Je pense que la volonté politique, oui, elle est là, elle existe. Après, je pense que la zone Normalie, comme on l'appelle, on le sait tous, elle est difficile d'accès. Donc, on rencontre évidemment des problématiques sur le retour des fonctionnaires. Nous, on travaille beaucoup avec les kinés et les orthos dans les CRAORF, hein, notamment. Mais c'est aussi une difficulté puisqu'il faut les motiver aussi pour retourner dans ces régions-là. Donc, c'est pas évident. On manque assez cruellement en fait de professionnels dans ce domaine pour prendre en charge les victimes. Je dirais oui, la volonté est là. Je pense que les bailleurs aussi sont très réceptifs à cette problématique. Ça c'est clair. On est de nombreux partenaires. Après, je pense qu'il faut faire plus, évidemment. Et encore une fois, vu l'avenir incertain qui est comme celui qu'on connaît aujourd'hui, avec le contexte politique, les accords d'Alger qui sont en stand-by. Donc là-dessus, voilà, on est très prudent. Je pense qu'il y a énormément de travail à faire et on souhaiterait comment dire, en tout cas, continuer les activités au-delà de 2015, ça c'est clair. Je pense qu'il y aura encore des besoins et comme le disait Sophie, les zones pastorales sont aussi des zones dans lesquelles nous on va peut-être un petit peu moins. Après, il faut qu'on échange avec toutes les ONG qui connaissent mieux le terrain. C'est ce qu'on fait de manière la plus fréquente possible. Mais voilà.
Alors, Sophie Petrona, vous êtes responsable de l'association d'aide à Gao. Si on vous dotait de moyens supplémentaires, dans quoi est-ce que vous allez investir pour toujours dans le cadre donc de la prévention contre les risques liés aux mines?
Investir, je crois qu'il y a déjà un gros travail qui est fait. Je pense que, personnellement, c'est mon opinion, tant au niveau national qu'avec des ONG comme Handicap International, pour moi, il faut conjuguer les efforts. Il y a des spécialistes d'un côté, il y en a d'autres de l'autre côté. Et si on conjugue nos efforts, je pense qu'il faudra aller au-delà de 2015. Ça, c'est une réalité. Mais on pourrait être beaucoup plus efficace. Moi, toutes les structures étatiques que j'ai rencontrées et que j'ai formées en 2014 sur ces problématiques et d'autres problématiques comme les enfants associés aux groupes armés, etc., etc. J'ai toujours eu un contact exceptionnel et extraordinaire. Vraiment, les services étatiques sont là. Ils sont parfaitement conscients de la situation du Nord. Ils sont là pour nous appuyer. Et moi, je n'ai jamais rencontré de difficultés avec eux. Et je pense que si nous conjuguons nos efforts entre les services étatiques et les ONG internationales, comme par exemple Handicap International, on pourrait quand même aller plus en avant et puis faire un meilleur travail. Parce que là où nous sommes rentrés aujourd'hui, dans ces petites attaques permanentes, ce sont des jeunes qui sont désabusés, qui n'ont rien à faire. Cette situation a provoqué des mauvaises idées, des ressentiments dans cette jeune population qui n'hésite plus dans la provocation et puis manque d'activité. Et lorsqu'on est oisif dans le nord du Mali, du pays, boire du thé, jouer aux dames, ça va un petit moment, mais ça ne suffit plus. Tout le monde est fatigué, puis cherche un échappatoire. Et malheureusement, on est confronté à ce type d'attaque pour quelques francs, un portable et puis un petit IED qui est placé sur la piste pour stopper notre élan quand on va vers des populations qui en ont besoin.
Merci beaucoup Sophie Petronin. Je rappelle que vous êtes responsable de l'association d'aide à Gao. Nous allons observer une courte pause et puis nous reprendrons avec la troisième et dernière partie.
Une réaction.
Un avis.
Un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Merci donc de visiter notre site web www.studiotamani.org. Aujourd'hui, le Grand Dialogue réfléchit sur la situation des mines tout court dans le monde et au Mali. La journée internationale dédiée à cette question est prévue pour le 4 avril et donc nous parlons donc de cette actualité. Alors Benoît Couturier, vous êtes de Handicap International. Officiellement, les mines sont interdites de circulation ou bien même d'utilisation. Quel genre de mines avons-nous l'habitude de rencontrer aujourd'hui et de quelle fabrication, de quelle destination nous viennent ces mines?
Ce sont en fait, donc on parle de mines antipersonnel, on parle de, je l'ai évoqué, alors plus globalement, hein, mais de bombes à sous-munitions, on a parlé d'IED, donc d'engins explosifs improvisés. Pour ce qui est de la fabrication des mines antipersonnelles, il faut savoir que les plus gros producteurs sont les États-Unis, la Russie et la Chine. Donc ils ont rejoint quand même avec pas mal d'efforts et qui ont signé le traité d'Ottawa. Donc ça, c'était quand même aussi une belle victoire. Maintenant, donc c'est plus cadré et plus contrôlé, en tout cas. Et du coup, dans un deuxième temps, je l'avais évoqué, le fameux traité d'Oslo qui interdit les BASM, les bombes à sous-munitions, donc qui sont des engins alors qui ne sont pas, qu'on ne retrouve pas au Mali, mais plutôt sur des terrains comme celui de la Syrie, où on constate que ces bombes à sous-munitions font majoritairement des victimes civiles. Puisque ça n'explose pas à l'impact. Et donc après, évidemment, ça peut se transformer en mine antipersonnelle qui va faire énormément de dégâts puisque les civils vont les rencontrer sur leur chemin. Donc après, on a aussi évidemment les armes légères. Les armes légères et de petit calibre, comme on l'appelle, donc tout ce qui est revolver, fusil, pistolet, qui sont alors là pour le coup au Mali, on a une prolifération assez importante. Ça aussi, c'est évidemment quelque chose qui est difficile à contrôler, sur lequel nous, Handicap International, on essaye forcément de faire de la sensibilisation. Après, on n'est pas là pour faire du recensement et de la collecte, hein, c'est pas notre rôle. Mais on constate en tout cas que la majeure partie de ces armes de petit calibre sont aux mains de civils la plupart du temps. Donc ce qui permet de se représenter que finalement les dangers que ça peut représenter, notamment auprès de l'entourage familial, l'entourage proche et plus largement évidemment auprès d'autres personnes.
Alors madame Koulibaly Fatoumata Diko, vous êtes spécialiste handicap et réadaptation, en ayant connaissance de ces risques liés et en côtoyant tous les jours les victimes donc de ce phénomène, est-ce que vous parvenez à vous faire entendre auprès de services concernés justement par la récupération, la collecte donc de ces armes légères dont on parle?
Oh, chaque fois, c'est des actions d'information, de sensibilisation, de communication pour qu'on arrive vraiment à faire asseoir ces gens-là par rapport à l'utilisation de ces outils qui peuvent poser des dégâts énormes. Donc, par rapport à ça, nous donnons beaucoup d'informations par rapport aux dégâts qui sont causés, qui peuvent être ressentis par la personne, mais qui peuvent être ressentis par la population toute entière. D'autant plus que c'est des enfants. Donc ça peut être des situations de détresse, non seulement par l'enfant, mais également par les parents et la population totale. Donc ça peut être source de dénervement, de mécontentement, etc. Donc c'est ce qui nous pousse vraiment à louer beaucoup d'informations, à faire beaucoup de sensibilisation et de communication vraiment pour que ces utilisations-là peuvent être atténuées dans la mesure du possible.
D'accord. Alors Sophie Petronin, vous êtes responsable de l'association d'aide à Gao. Dites-nous, aujourd'hui à Gao, est-ce que l'ampleur de la prolifération des armes légères est aussi importante que dans les autres régions, par exemple? Quel est l'état des lieux dans la région?
Écoutez, je crois qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Gao en particulier, il y a une quantité énorme d'armes cachées et la plupart du temps chez les populations. Et les populations hésitent énormément à dénoncer parce que par peur de représailles. Moi, je vais une fois par mois sur le terrain, je passe une semaine et je sais par exemple qu'au 4e quartier, qui était un des fiefs de Abdou Salam, Yoro Abdou Salam, il y a beaucoup de familles qui détiennent une quantité assez importante d'armes, mais qui n'osent pas, parce que la problématique, c'est que on a déjà vu dans les semaines et dans les mois précédents que lorsqu'il y a quelqu'un qui est accusé à tort ou à raison d'avoir donné des informations, il est exécuté purement et simplement. Et Gao et toute la région de Gao, moi je ne peux pas parler pour Tombouctou parce que je n'y suis pas, mais Gao et toute la région de Gao, y compris la Brousse, sont truffées d'armes en provenance de la Libye. Nous le savons plus ou moins tous. Serval a fait un énorme travail d'élimination. Barkhane a pris la relève derrière. On sait que des tonnes d'armes ont été détruites. C'était des armes quand même de gros calibre, des bombes, etc. Mais les petites armes qu'on pourrait appeler, comme l'a dit je crois Benoît tout à l'heure, les pistolets, les revolvers, la Kalachnikov, mais il y a aussi des AK-47, c'est quand même du gros calibre. Ça, il y en a. Malheureusement, il y en a. Il faudra un long travail parce que ces engins aujourd'hui représentent un énorme danger. Mais ils vont représenter longtemps encore une menace sérieuse sur les personnes et les communautés, et en particulier sur les enfants, parce que les enfants n'ont pas le sens de la dangerosité que présentent ces armes. Quel est l'enfant qui n'a pas joué aux soldats, aux gendarmes et aux voleurs ou aux Indiens? Et ils font pas la différence. C'est pour ça que je soutiens ce que vient de dire. Je rebondis, je soutiens, si j'ai bien compris, ce qu'a dit Madame Fatoumata, c'est qu'il faut vraiment faire un travail de fond sur la sensibilisation.
Merci beaucoup Sophie Petronin, vous êtes responsable de l'association d'aide à Gao. Alors Benoît, avec vous, on le sait, la MINUSMA, la mission des Nations Unies subit de lourdes pertes liées notamment à ces engins explosifs dans le nord du Mali avec ces convois. Aujourd'hui, est-ce que vous intervenez dans ce domaine-là aussi? Est-ce que vous les appuyez, que ce soit sur le terrain ou bien ici à Bamako?
Alors, en fait, il y a une distinction nette entre les organisations non gouvernementales pour lesquelles nous faisons partie et la mission des Nations Unies présente au Mali. Donc, évidemment, on se distingue le plus possible puisqu'on n'a pas du tout le même mandat. La MINUSMA est une mission de maintien de la paix et les organisations non gouvernementales n'ont aucun rôle et sont neutres, impartiales.
Ils sont là pour les civils également.
Ils veulent faire respecter exactement les principes humanitaires. Donc ça, c'est très important. Donc on parle beaucoup d'espace humanitaire. Donc nous, pour pouvoir justement aller sur le terrain et bien faire comprendre aussi aux communautés, aux civils, comme vous le dites, qu'il y a une forte distinction pour pas qu'il y ait d'assimilation. Et ça, il faut qu'elle soit bien claire dans les esprits, parce que c'est très important, nous aussi, pour qu'on puisse continuer à travailler, puisqu'on ne travaille qu'avec les communautés et les populations civiles. Après, le travail de la MINUSMA, c'est un autre mandat, c'est quelque chose qui est différent. Et donc, voilà, c'est juste pour apporter cette précision. Donc, on sait très bien, évidemment, que la MINUSMA est ciblée, forcément, puisqu'il y a des contingents de soldats de plusieurs pays. Après, il faut aussi savoir, et je pense qu'il faut le souligner, les ONG aussi sont malheureusement rencontrent des incidents de sécurité. Nous, Handicap International, on a sur les axes, que ça soit de Gundam, que ça soit de Bambara Maoudé, que ça soit vers Gourmara Rousse, vers vers l'est, mm-hmm. enfin en tout cas sud, est et ouest, au niveau de Tombouctou, on a rencontré des problèmes de sécurité l'année dernière, donc forcément ça nous pousse à revoir nos stratégies d'intervention et aussi à malheureusement, je dirais, comme ça s'est passé pour le CICR il y a deux jours, à suspendre les activités temporairement. Donc forcément, qui en pâtit, ce sont les populations civiles, puisque évidemment, alors que ça soit l'aide humanitaire ou alors la sensibilisation, notamment sur les restes explosifs de guerre, sont repoussés et donc le travail est forcément décalé et on n'est pas là, peut-être au bon moment quand il le faut et où il le faut. Donc ça, c'est vraiment, je voulais juste être bien clair sur cet aspect qui nous distingue. Et puis dire évidemment forcément que le contexte est difficile
pour tout le monde.
Voilà, c'est ça.
Alors, Madame Koulibaly Fatoumata Diko, spécialiste handicap et réadaptation, vous êtes d'un service étatique. Aujourd'hui, est-ce que la difficulté aujourd'hui que les services comme le vôtre puissent se déployer dans le Nord font en sorte que les populations soient laissées pour compte? Est-ce que vous avez cette impression que les populations civiles ont du mal à vous atteindre?
Bon, les populations, non. À ce niveau, notre service est toujours sur place. Travail de longue haleine pour vraiment servir la population par rapport à l'aspect psychosocial et par rapport à la distribution des aides qu'ils nous ont offertes par rapport à leurs besoins. Donc nous travaillons toujours en collaboration avec les leaders communautaires, avec les leaders religieux, les ONG, etc., etc. Donc pour que la population ne soit pas vraiment dans des situations de détresse, surtout par rapport à l'approvisionnement en besoin, par rapport à l'aspect psychosocial et même par rapport à la prise en charge sur le plan de l'appareillage, sur le plan des aides techniques, etc., etc.
Alors Sophie Petronin, vous êtes responsable de l'association d'aide à Gao. Vous avez le dernier mot avant que je ne ferme définitivement cette émission. Une minute.
Merci à vous deux déjà, vous trois du moins, d'être là. Et puis, moi, ce que je peux souhaiter, ce que je peux dire à la fin, c'est que unissons nos efforts pour les enfants, parce que ce sont les principales victimes, et que l'AG sera toujours prête pour aider, soutenir. Un grand merci au développement social. Moi, j'ai passé presque 20 ans au nord, au sud et de l'est à l'ouest, et toujours en milieu pastoral, donc dans les zones les plus reculées. Donc, et merci, un grand merci pour toutes les structures étatiques qui m'ont accueilli et qui m'ont soutenu et aidé. Et puis, un grand merci aussi à Handicap International pour le monumental travail, parce que je sais ce que c'est, le monumental travail qu'ils accomplissent. Et peut-être aurons-nous la chance de nous rencontrer une autre fois. Je suis contente pour des raisons de sécurité actuellement. Alors désolée.
Merci beaucoup. Et cette publicité, c'était en récompense à votre petit bobo aujourd'hui avec cette angine. Merci d'être resté avec nous pour la suite et la fin donc de cette émission. Merci à vous deux pour votre disponibilité également, Madame Koulibaly Fatoumata Diko et Benoît Couturier de Handicap International. Aujourd'hui, le débat portait sur les mines de façon générale dans le monde et la journée du 4 avril est consacrée justement à cette question et nous avons tenté d'éclairer votre lanterne sur cette question. Je suis Famoussa Sidibé, Nouhoum Diré était à la technique, Petit Ndiara était à la régie vidéo, Ousmane Diadié Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain et bonsoir.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Biro.
Halud Mouni.
Chenni Biri.
Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.